C'est un plaisir d'être avec vous encore ce matin et de partager la parole. On va continuer ensemble dans cette série qui s'intitule Simplicité. La semaine dernière, on a commencé cette série. Il y a beaucoup de personnes qui étaient absentes. Il y en a qui étaient sur Brignoles. Alors, je vais faire un petit récap. Comme ça, on est tous à peu près au même point. Puis, je crois qu'il est toujours bon. Il y a des choses de la parole, de la part de Dieu. On pourrait presque les entendre tous les jours. Ça ne ferait pas de mal. C'est vrai, hein? Et par exemple, se rappeler tous les jours de la fidélité de Dieu, se rappeler tous les jours que Dieu nous aime, se rappeler tous les jours que quelles que soient mes circonstances, le Seigneur est avec moi. Toutes ces choses-là sont des vérités qu'on peut se rappeler constamment. On a voulu aller dans cette série qui s'intitule « Simplicité », tout simplement parce qu'on croit que plus ta vie chrétienne est simple, plus tu vas bien. La meilleure version de toi, c'est quand tu es simple. Quand tu commences à beaucoup réfléchir, quand tu commences à beaucoup avoir des conseils dans tous les sens, quand tu commences à ne plus avoir cette vie chrétienne où tu sais justement que Dieu t'aime et où finalement, à cause de cet amour, il y a un fruit, il y a un fleuve qui coule dans ta vie, eh bien ça devient un problème. On a lu ensemble ce texte, je le lis dans la version Darby, il va s'afficher, Matthieu chapitre 6, verset 22, « La lampe du corps, c'est l'œil. C'est l'œil. Si ton œil est simple, ton corps tout entier sera plein de lumière. » Plein de lumière. Et j'aime cette version parce qu'elle met un mot qui est vraiment proche de ce que le grec nous dit. Mais si ton œil est méchant ou s'il est tortueux, tout ton corps entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes tes ténèbres? Et on avait vu ensemble, le mot simple, c'est le mot généreux, simple, sincère. En fait, quelqu'un de simple est quelqu'un de généreux. Quelqu'un de simple et quelqu'un de sincère. Quelqu'un de simple, et ça se voit dans ses rapports avec les autres, dans sa manière de voir Dieu, dans sa manière de se voir lui-même. Et la simplicité est essentielle pour nous en tant qu'enfants de Dieu, parce qu'il est dit dans Matthieu, si ton œil est simple, tout ton corps est dans la lumière. Parfois, nous, on croit que les ténèbres, quand il y a des ténèbres sur nos vies, quand il y a des oppressions sur nos vies, tous les bons chrétiens vont dire quoi? Il faut faire du combat spirituel. Il faut faire un jeûne, il faut prier, impose-moi les mains. Eh bien, dans ce texte de Matthieu, il nous est dit qu'il y a des dimensions des ténèbres qui ne sont pas connectées au combat spirituel, mais qui sont connectées à ta simplicité. Des fois, l'ennemi n'a pas besoin de t'attaquer, tu te noies tout seul. Vous êtes là ? Des fois, il y a des combats, ils sont tellement dans nos têtes. Vous savez, ces soirs, bon, vous, ça ne doit pas vous arriver, mais vous, il y a des gens chez qui ça arrive, ces soirs où tu te couches, ça va bien, puis après, tu te mets à réfléchir. Et tu dors pas de la nuit, ou tu te mets 3 heures à t'endormir, et là tu t'es créé un combat qui n'existait pas, mais tu as envisagé toutes les possibilités des choses moyennes qui pourraient t'arriver demain. Ça existe, hein, il y a des gens qui vivent ça. Vous non, mais ça existe. Mais et donc on voit ici un principe, c'est que la lumière dans ma vie est connectée à ma simplicité. Donc je prie que Dieu fasse de nous ce peuple simple et rempli de lumière. Plus c'est compliqué, plus l'Église est compliquée, plus la manière de faire la vie chrétienne est compliquée, plus l'ennemi s'amuse avec nous. Le royaume de Dieu est pour les enfants et ceux qui leur ressemblent. C'est ça, le royaume de Dieu est pour les enfants, la simplicité des enfants. La simplicité, donc, c'est à la fois la porte d'entrée de la lumière, mais c'est la porte d'entrée vers une vie chrétienne joyeuse. Plus tu es simple dans ta vie chrétienne, plus tu es joyeux. Et frères et sœurs, la joie est... Vous savez, la joie, et c'est pas mon thème ce matin, mais c'est très important, la joie est littéralement, selon la Bible, un curseur de là où tu en es avec Dieu. Un des fruits de la vie chrétienne, c'est la joie. Lorsque tu es sauvé, la Bible dit qu'il y a quelque chose qui t'est donné, ça s'appelle la joie du salut. Mais cette joie du salut, c'est pas juste une joie que tu reçois à un moment donné, c'est cette joie. Plus je réalise que je suis sauvé, pour ça qu'il y a des vérités, il faut y baigner chaque jour. Plus je réalise que je suis sauvé, plus je suis joyeux. En fait, quelqu'un de simple est quelqu'un de joyeux. Si tu es pas assez joyeux dans ta vie en ce moment, c'est peut-être que tu manques de simplicité. Et on a besoin de rentrer dans ces dimensions-là. Donc plus je suis simple, plus je suis joyeux. Quand je suis simple, j'accorde de l'importance aux choses qui en valent la peine. Je disais la semaine dernière, arrêtons les combats qui n'existent pas. Il y a trop de choses qu'on se rajoute. Des choses qu'on pense sur Dieu, de ce que Dieu aime, de ce que Dieu veut. Ce matin, par exemple, on peut être assis ici et se dire, ah oui, non mais quand même, on a loué que 20 minutes et on a passé 10 minutes à rendre des témoignages. Et alors, qu'est-ce qui dit qu'on ne devrait pas faire ça tout le temps? D'ailleurs, qu'est-ce qui dit qu'on devrait commencer par la louange? Et qu'est-ce qui dit que je devrais prêcher? Mais la vie chrétienne est simple, c'est marcher avec Jésus. Et en fait, Jésus, c'est lui qui va où il veut, et c'est nous qui le suivons. Mais plus je suis simple, donc plus je m'évite des combats inutiles, plus je simplifie ma vie, plus j'arrête de raisonner. Vous savez, raisonner, ça peut être bon, mais si raisonner t'amène à devenir compliqué, à perdre ta spontanéité, à affaiblir ta foi, c'est que tes raisonnements ne sont pas divins. Ils ne sont pas saints, S-A-I-N. Des fois, il faut raisonner. Par exemple, tu reçois ta feuille d'impôt, raisonne sur ta feuille. Essaie de comprendre pourquoi il y a des chiffres, tout ça. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Mais parfois, raisonner, lorsque le fruit qui en découle, c'est une perte de simplicité, c'est que tout devient compliqué, c'est que je dois laisser mes raisonnements de côté pour revenir à la simplicité. Parce que si mes raisonnements m'amènent à la difficulté, la difficulté va m'amener à la culpabilité à un moment donné. Parce que quand c'est trop compliqué, je me rends compte qu'il y a des choses, peut-être, je les fais bien, je les fais pas bien, et je me rends coupable. Et quand je me rends coupable, ma vie chrétienne devient difficile. Je disais la semaine dernière, et je vais nous le redire ensemble, la vie chrétienne, c'est une marche avec Dieu. Oui, le chemin, il est étroit et resserré, mais la vie chrétienne, ce n'est pas aller à l'échafaud. Ce n'est pas une vie difficile. On a mis trop d'emphase sur des choses que Christ a accomplies. Il est dit que nous devons offrir nos corps, par exemple, comme des sacrifices vivants. C'est une bonne nouvelle. C'est pas un sacrifice mort. C'est un sacrifice vivant. Donc, voici quelque chose d'important. Dieu ne veut pas que tu meures pour lui. Dieu veut que tu vives pour lui. C'est une bonne nouvelle, ça. Mais nous, parfois, on croit que Dieu est sur son trône, il regarde nos vies, et il passe son temps à nous dire « Ah, dans ce domaine-là de ta vie, tu dois mourir. Ah, dans ce domaine-là de ta vie, tu dois mourir. Ah, là, tu dois mourir. Ah, là, tu dois mourir. » Oui, mais à la fin, quelle est la qualité d'une vie où finalement, tout ce que tu fais, tu crois que Dieu ne veut pas que tu le fasses? La vraie vie, c'est de savoir ce que Dieu veut et de pouvoir vivre cette vie-là. C'est pas juste une vie de contrainte, et on va en parler beaucoup ce matin. Je prie ce matin dans le nom de Jésus que le poteau sacré de la religiosité soit abattu dans nos vies. Qu'on puisse sortir de ce lieu libre, des enfants de Dieu libres. On a été payés par le sang de Jésus pour la liberté, pas pour la culpabilité. Ce n'est pas vrai, quand tu es non-chrétien, tu découvres la foi, tu demandes pardon parce que tu as découvert que tu vivais dans le péché, tu découvres la foi, et le premier fruit, c'est la joie du salut. Mais les chrétiens, c'est pareil pour nous, c'est pas moins bien une fois que tu es devenu chrétien. C'est bien pour ceux du dehors, mais quand tu deviens dedans, on change les règles, ça devient la galère. Dieu a pas plus de grâce pour un pécheur qui hier soir est allé faire n'importe quoi en boîte de nuit que pour toi qui es là aujourd'hui. Dieu t'aime pareil. La grâce de Dieu est la même. Le fils prodigue, les amis, vous vous rappelez cette histoire? Dieu aimait, le père aime les deux fils de la même manière, mais le fils qui est resté dans la maison, des fois, l'oublie. Donc on doit réapprendre que nous devons marcher avec simplicité. Et la première chose, la chose fondamentale pour entrer dans cette vie chrétienne, c'est d'apprendre à marcher avec Dieu. Pas à marcher pour Dieu, avec Dieu. Et on va voir pourquoi j'insiste sur ça. Il est dit ceci dans Marc, au chapitre 3, versets 13 à 15. « Il monta sur la montagne, il appela ce qu'il voulut, ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. » On dit ensemble, pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous arrive à nous tous, mais quand on lit ce texte, on comprend qu'il les a appelés pour les envoyer chasser, pour les faire bosser, pour le servir, pour... Je vais te dire une chose très simple de la part du Seigneur. Dieu n'est pas en pénurie de main-d'œuvre. Au ciel, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. Dieu ne cherche pas des gens qui vont être des esclaves pour qu'ils se sentent valorisés. Jésus a choisi les 12 premièrement, pour les avoir avec lui. Et la raison pour laquelle tu es là ce matin, la raison pour laquelle Dieu t'a sauvé, premièrement, ce n'est pas pour que tu le serves, ce n'est pas pour que tu témoignes, ce n'est pas pour que tu accomplisses des jeûnes et des prières. La raison première, c'est parce que Jésus veut t'avoir avec lui. Et ça change tout. Parce que quand tu envisages la vie chrétienne comme une vie où je suis avec Dieu, je marche pour Dieu, je sers Dieu, quand je suis que dans cette logique-là, eh bien, je perds l'essence même de la relation que Dieu veut avoir avec nous. J'ai deux enfants, ma relation que j'ai avec eux, c'est que je les aime parce qu'ils sont mes enfants. Je ne les aime pas parce qu'ils font des choses pour moi. Si j'évaluais mon amour pour mes enfants à la mesure dont ils vident le lave-vaisselle, je peux vous dire que mon niveau d'amour serait fluctuant. Maintenant, prends cette image un peu simple et applique-la dans ta vie. Dieu n'a pas un amour pour toi. Ah, aujourd'hui, il a vidé le lave-vaisselle. Je l'aime beaucoup. Demain, il l'a pas fait. Ah, je l'aime moins. Dieu ne fonctionne pas comme ça. La Bible dit, méchant comme tu es, tu sais donner de bonnes choses à tes enfants. Alors combien à plus forte raison le Père qui est dans les cieux donne de bonnes choses? Il faut qu'on arrête de se faire enfermer par la religiosité qui nous vole la joie. Plus tu as de la religiosité dans ta vie, moins tu as de joie. Plus tu as de religion dans ta vie, plus la vie chrétienne est dure. Plus tu te dis, je dois aller à l'église, je dois prier. Tu as ton réveil qui sonne à 6h, tu dis, oh, je dois aller à la prière. Ou tu restes dans ton lit, tu te connectes pour qu'il y ait ton nom, comme ça ils disent, oh, au moins, ils vont croire que je prie. La religiosité. Dieu veut vivre avec moi. J'arrive dans le message de ce matin, après avoir fait ce récap, mais la dernière chose que je veux rappeler qu'on a dit ensemble la semaine dernière, c'est que lorsque je ne comprends pas que Dieu veut marcher avec moi, que je passe ma vie à vivre pour Dieu, eh bien, je me mets à séparer dans ma vie le spirituel et le reste. Quand je fais des choses spirituelles, Dieu aime ça. Quand je fais des choses normales, je parle même pas du péché, je dis des choses normales, Dieu n'aime pas ça. Comme s'il y avait le sacré et le profane, le divin et que le charnel. Oui, la Bible parle du charnel et on peut parler du charnel, c'est autre chose. Mais là, je parle ce matin de la manière dont on peut voir nos vies. Parfois, nous sommes des chrétiens paranoïaques. C'est-à-dire que quand on se dit, si je prie, Dieu aime ça. Si je jeûne, Dieu aime ça. Si je vais à l'église, Dieu aime ça. Par contre, si je prends ma femme et que je vais faire une promenade, ah ben là, c'est du temps que j'aurais pu donner à Dieu. Une femme, un jour, est venue me voir, elle m'a dit, elle me demande un rendez-vous, elle me dit, pasteur, on parle de plein de choses, et au milieu de la discussion, elle me dit, vous vous rendez compte? La sœur un tel, moi j'aime bien quand ça commence comme ça, la sœur un tel, elle est partie en Guadeloupe pendant 3 semaines avec sa famille, vous imaginez l'argent que ça a coûté, cet argent qu'on aurait pu donner pour les pauvres? Et moi, ma réponse a été, elle a bien fait. Au moins, elle s'est reposée. Mais je me suis rendu compte ce jour-là que cette pauvre dame, cette pauvre sœur, eh bien, elle ne prenait aucun plaisir dans sa vie parce que pour elle, plaisir égale déplaire à Dieu, péché. Je veux te dire une chose, tu peux vivre ta vie avec Dieu. Comme je disais la semaine dernière, ce n'est pas que quand tu pries que Dieu est là. Tu peux amener Dieu avec toi à la plage, tu peux amener Dieu avec toi. Mais la Bible dit même que quand tu dors, Dieu est avec toi. Des fois, il y en a qui se sentent coupables. Ah, j'ai trop dormi. La Bible dit que quand tu as compris comment Dieu fonctionne, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Des fois, il vaudrait mieux que tu arrêtes de réfléchir, va te coucher. D'un coup, ça va être plus clair dans ta vie. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce matin, je crois que Dieu aime nous entendre chanter. Dieu aime la louange. Dieu aime ces moments qu'on a avec lui. Mais lorsqu'on va sortir, qu'on va aller en famille, que tu vas être tout seul, peut-être cet après-midi, je sais pas ce que tu vas faire, ou demain, mais Dieu est avec toi aussi. En fait, Dieu aime être avec toi. Nous passons notre temps à courir pour attraper Dieu. Mais la vérité, c'est que c'est Dieu qui te court après tout le temps. Que Dieu nous aide à avoir une vision spirituelle de la vie chrétienne. Quand je partage ma vie entre le sacré et le non sacré, j'oublie qu'en fait, il y a une seule vie, je crois qu'il y en a deux différentes, mais surtout ce qui se passe, c'est que la culpabilité dans ma vie grandit, parce que j'ai essayé. Je n'arrive pas à prier 24 heures sur 24. Je suis désolé, j'ai pas réussi. Si tu as réussi, dis-nous ton secret. Je vais poser des questions simples. Je n'ai pas réussi, cette semaine, à donner 100% de mon temps pour Dieu. Il y a des moments, je les ai pris pour moi. Le matin, je vais faire mon sport, pas pour Dieu. C'est pour moi que je le fais. Mais souvent, quand je cours, ça dépend si vraiment je suis en train de mourir, là, je pense vraiment qu'à mon souffle. Mais souvent, quand je cours, quand je marche, je parle à Dieu. Dieu est avec moi, Dieu court avec moi. Dieu est avec toi. Il est avec toi, à côté de toi, en toi, autour de toi. David nous dit qu'on ne peut pas fuir Dieu. Si je vais au ciel, tu es là. Si je vais au séjour des morts, tu es là. Tu m'entoures par devant et par derrière. Dieu est là. Et je dois apprendre à marcher avec lui. Arrête de croire qu'il est resté dans ta chambre. Amène-le avec toi. Je ne fais pas les choses pour être aimé, je fais les choses parce que je suis aimé. Et ça, ça change tout. Maintenant, j'avais terminé par ce texte-là la semaine dernière et on continue ensemble par Matthieu 11, qui est Matthieu 11, verset 28 à 30 sont certainement les versets les plus fondamentaux des évangiles pour les chrétiens qui marchent avec Christ. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quand on est fatigué et chargé, et qu'on nous dit on doit prier, on se dit « oh purée ». Et pourtant, ce verset nous dit que quand tu vas à Dieu, que tu es fatigué et chargé, tu trouves du repos. « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Ça, c'est une vie chrétienne qui est bien quand même. Non ? Moi, quand je lis ce texte, je dis « Seigneur, je ne veux rien d'autre que ça. Je veux que ma vie chrétienne soit douce et légère. » Je veux marcher avec Dieu, mais je veux pas marcher avec Dieu en ayant l'impression que tu meurs mille morts. La vie chrétienne, c'est ça. Je lis pour vous dans la version du Message. Êtes-vous fatigué, usé? J'ai juste pris la traduction littérale de la version Le Message. Êtes-vous fatigué, usé, épuisé par la religion? Venez à moi. Mettez-vous à l'écart avec moi et vous récupérerez votre vie. Je vais vous montrer comment prendre du vrai repos. Seigneur, montre-nous ça. Marchez avec moi et travaillez avec moi. Regardez comment je fais. Apprenez les rythmes non forcés de la grâce. Je ne vous imposerai rien de lourd ou de mal ajusté. Tenez-moi compagnie et vous apprendrez à vivre librement et légèrement. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est ça que Dieu veut pour nous. Ça doit être, ça, si tu veux mettre un verset sur ton frigo, mets celui-là. Et tous les jours, tu te dis, est-ce que ma vie chrétienne est douce et légère? Est-ce que je trimballe des poids que je ne devrais pas? Est-ce que j'envisage ma vie chrétienne juste sur une série d'obligations, ou est-ce que je suis dans ce repos doux et léger? Ce texte-là nous apprend un principe que je veux partager avec vous, c'est que la vie chrétienne est simple quand elle s'enracine dans la grâce. À partir du moment où je commence à oublier la grâce, où je m'éloigne de la grâce, les embêtements commencent. La galère commence. La vie chrétienne est simple quand elle s'enracine dans la grâce. Je lis pour vous ce que j'ai mis dans mes notes. Le manque de grâce rend la vie compliquée. Souvent, quand on a du mal à savoir ce que Dieu attend de nous, quand on ne sait pas si Dieu nous aime vraiment, on ne sait pas si on est à la hauteur, on se sent un peu coupable avant d'arriver, c'est qu'on manque de grâce dans notre vie. Quand je marche avec Dieu et que je sais que ce Dieu de grâce marche avec moi, les choses vont bien. Pourquoi ? Parce que quand je tombe, je sais qu'il me relèvera. Parce que quand je suis imparfait, je sais que lui est parfait et que sa perfection vient combler mon imperfection. La grâce, c'est pas juste de dire « fais n'importe quoi, Dieu est avec toi, bien entendu ». Mais c'est quand je comprends la profondeur de la grâce que je sais que Dieu est avec moi. Et ça, c'est la plus grande des armes contre le péché. Le péché, tu n'es pas protégé contre le péché quand tu te dis « je dois pas pécher ». Si c'était ça la sainteté, alors tout le monde se dit « je dois pas faire ça ». Les pharisiens dans vos Bibles étaient pleins de prescriptions « je dois pas, je dois pas, je dois pas ». Et Jésus dit à l'intérieur « vous êtes pourris ». Pourquoi ? Parce que en réalité, c'est la grâce, la profondeur de la grâce qui me donne cette capacité de marcher avec Dieu et qui me protège de la religiosité. J'aime ce texte où il est dit « Apprenez les rythmes de la grâce, les rythmes non forcés de la grâce ». Est-ce que vous imaginez, Et là, je prie que Dieu m'aide à trouver les mots pour qu'on parle de ça ensemble. Mais est-ce que vous imaginez que quand je réalise profondément, je vis la grâce de Dieu. Je suis un gracié. La grâce de Dieu est pour moi, elle est en ma faveur. Dieu, le Dieu de grâce, est pour moi, il est en ma faveur. Quand je réalise pleinement ça, eh bien la Bible dit, Jésus nous dit qu'il y a des rythmes, il y a un mouvement qui se met en place dans ma vie. Et ce mouvement, c'est comme, que je pourrais l'illustrer, c'est comme un courant d'air qui va souffler dans tes voiles et qui te met en mouvement. Parfois, on n'arrive pas à être en mouvement, pas parce que Dieu ne nous a pas parlé, mais parce qu'on n'est pas, c'est pas la grâce qui nous pousse. Quand, vous savez, comment expliquer ça? Plus tu es amoureux, plus les choses ne te coûtent pas de les faire. Non? On a l'occasion, malheureusement, des fois, de rencontrer des couples qui sont en combat, qui sont en lutte, pour lesquels ça va mal. Quand ça va mal dans un couple, en général, c'est parce qu'on ne fait plus rien l'un pour l'autre. Et du coup, là, l'ardoise se remplit. Mais ce que je veux dire, c'est que la grâce, plus je la réalise, plus je la comprends, plus elle crée un mouvement. Quand tu prends un temps et que tu es touché, moi j'aime ce que Romaric a dit tout à l'heure, quand tu prends un temps, même au milieu de la nuit, et que tu es touché par la grâce de Dieu, eh bien, ça te met en mouvement vers la prière, vers l'ouverture aux autres, vers l'amour. T'as envie de faire des choses. Et en plus, c'est même pas toi qui le produis, c'est le mouvement de la grâce en toi. Et c'est pour ça que c'est essentiel. C'est pas juste un concept. C'est pas juste de dire, la grâce me sauve. Non, la grâce crée du mouvement dans ta vie. Elle te donne envie. Tu viens à l'église parce que tu sais que tu es gracié. C'est pas, et tu viens pas à l'église parce que tu dois, parce que sinon Dieu est en colère. Non, c'est le mouvement dans ta vie. Et ça, c'est essentiel parce que si je n'ai plus le mouvement, et ça, je veux que vous me compreniez bien parce que ça, c'est crucial. S'il n'y a plus le mouvement de la grâce dans ma vie, si ce n'est plus la grâce qui me met en mouvement, eh bien, je me mets à croire que c'est moi qui dois créer le mouvement dans ma propre vie. Et je me dis, je dois accomplir des actes de piété pour créer le mouvement. Donc, je me dis, il faut que je prie, il faut que je jeûne, il faut que j'aille à l'église, il faut que je lise beaucoup la Bible. Ça va me revigorer. Je vais te dire une chose, ça ne revigore pas du tout. Si tu ne comprends pas la grâce de Dieu, tu peux prier très longtemps. Il y a des gens au Tibet qui prient presque tout le temps. Presque tout le temps. J'ai vu une vidéo d'un gars, il ne sait même pas si c'est vrai, pas vrai, mais en tout cas, ils ne l'ont jamais réussi à le bloquer. Il est en méditation depuis 2 ans. De 2 ans. Ce n'est pas ça qui crée le mouvement dans ta vie. Et ça, c'est crucial parce que si c'est ma piété qui crée du mouvement, alors je vais me mettre à faire des actes de piété et là, je vais créer quelque chose d'horrible qui s'appelle la religiosité. Je fais des choses pour rester chrétien. Je fais des choses pour être chrétien. Or, la vie chrétienne, c'est la grâce de Dieu dans ta vie te bouleverse tellement que tu as un mouvement qui prend place et là, tu fais des choses. Subtil, mais essentiel. Je ne peux jamais être dans le tempo. Moi, j'aime ce texte parce que les mouvements de la grâce, ça nous parle d'un tempo. C'est que Dieu a un mouvement. Vous êtes rendu compte dans vos vies que parfois, Dieu va vite. Les prières arrivent vite. Les percées arrivent vite. On dirait que, en général, on aime ces moments-là. Hein. Puis il y a des moments, plus la galère. Ça arrive moins vite. Mais quand tu regardes l'histoire du peuple d'Israël, c'était exactement ça avec Dieu. Parce que dans le désert, des fois, Dieu leur permettait de marcher des kilomètres, et des fois, Dieu s'arrêtait, et ils n'avançaient plus pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et ça, c'est l'image de la vie chrétienne. Des fois, Dieu a envie de marcher, et si tu marches avec lui, tu vas accomplir des kilomètres, et des fois, Dieu s'arrête. Et c'est là où les périodes un peu inconfortables, parce que nous, comme on comprend pas comment Dieu fonctionne, on veut continuer à avancer dans une période où Dieu s'est arrêté. Et dans la période où Dieu s'est arrêté, Dieu te dit « repose-toi ». Toi, tu te dis « oui, mais là, c'est une perte de temps. Je veux le pays promis ». Parfois, on n'a pas le pays promis parce qu'on ne s'est pas reposé au bon moment. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, et ça, c'est crucial, c'est qu'il y a un rythme. Et que le rythme de Dieu, je le capte seulement quand je reste pleinement dans la grâce de Dieu. Plus c'est une réalité, et je comprends, j'utilise juste un mot, et ce mot-là, il n'a pas de sens si tu n'en as pas la révélation. Mais si tu en as la révélation, tu sais de quoi je parle, ça crée un mouvement en toi, et ce mouvement te maintient dans le rythme de Dieu. Vous savez, il y a des jours, il y a des jours, par exemple, Romaric est en vacances en ce moment, vous savez que Dieu l'aime pareil. Sa femme n'est pas venue ce matin parce qu'elle se reposait, mais gloire à Dieu. Elle n'est pas dans le péché. Dieu est avec elle. Elle est autant avec Céline qu'avec Romaric. Hein. Elle ne va pas rentrer en disant « Oh zut, Dieu était avec toi, il n'était pas avec moi. » Il y a des mouvements de Dieu dans nos vies, pour chacun d'entre nous. Et moi, je sais que, par exemple, pendant les vacances, quand je suis dans ma montagne corse, déjà, bon, c'est le paradis, tout va bien et tout. Mais au-delà de ça, je suis avec Dieu, je suis dans sa grâce. Je suis en pause et je suis heureux. Tout va bien. La vie est belle, Dieu est là. On est là ici, je prépare un message, je prêche, je sais que Dieu est autant avec moi et il m'aime autant et il est là. Donc les rythmes de la grâce te simplifie la vie. Quand quelqu'un a compris la grâce de Dieu, il est simple dans sa vie. Parce que quand il pêche, il dit, ben, je me repens. Quand il a un conflit, il dit, ben, déjà, quand tu comprends la grâce, tu te sens privilégié. Et du coup, c'est difficile d'avoir des conflits avec les autres. Ah, je vous l'assure, hein. Parce que plus tu te sens privilégié, tu dis, je ne méritais pas d'être pardonné. Bon, mais du coup, lui, il mérite quand même que je le pardonne. Parce que ça, c'est la grâce. Et ça crée ce mouvement d'amour, de joie, de salut. Quand tu réalises que tu es sauvé, eh bien, j'aime le témoignage de Romaric, tu ne dors pas de la nuit, mais tu es heureux le matin. Par contre, quand tu ne réalises pas que tu es ça, tu ne dors pas de la nuit, mauvaise semaine qui commence. La grâce. La deuxième chose que je partage avec vous, la dernière, quand je sais que Dieu a fait alliance avec moi, je suis calme et ma vie est simple. Quand je sais, alors vous allez me dire, oui, mais on le sait tous, ah bon. Eh bien, des fois, on ne se comporte pas comme si on savait que Dieu a fait alliance avec nous. Déjà, je vais mettre une chose au clair très vite. Ce n'est pas toi qui as fait alliance avec Dieu. C'est Dieu qui a fait alliance avec toi. Et ça change tout. Hein. On est dans l'alliance avec lui, mais c'est lui qui la porte. C'est lui qui s'est engagé, c'est lui qui a donné son fils, c'est lui qui est venu, qui a fait toute cette histoire depuis Adam et Ève pour venir nous sauver, c'est lui qui nous a envoyé les prophètes, c'est lui qui donne les ministères à l'église, c'est lui qui garantit son alliance. C'est Dieu qui a eu cette idée, ce n'est pas toi. Dis à la personne à côté de toi, désolé, c'est pas toi qui as eu l'idée. Quand je sais que Dieu a fait alliance avec moi, ça va bien. Mais attention, quand j'oublie que c'est Dieu qui a fait alliance, quand je me mets à croire que l'alliance dépend de moi, je suis inquiet et agité. L'inquiétude dans la vie chrétienne est très connectée au fait que j'ai oublié que Dieu avait fait alliance avec moi. Quand tu es en train de couler, mais que tu sais que Dieu a fait alliance avec toi, eh bien, tu coules en paix, parce que tu sais qu'à un moment donné, il y a une main qui va t'attraper. Les grandes eaux étaient sur le point de me submerger et il a étendu son bras. L'alliance, quand je la comprends, elle me place dans la confiance et dans la foi, elle me sécurise. Je suis inébranlable parce que je sais que Dieu a fait alliance avec moi. Mais quand je crois que l'alliance dépend de moi, quand je crois que l'alliance dépend de ma piété, quand je crois que l'alliance dépend de mon niveau d'amour, de bonté, quand je regarde, frères et sœurs, on se parle en français, on est dans une église, on peut pas mentir. Quand tu lis le fruit de l'esprit dans l'épître aux Galates, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la bonté, la maîtrise de soi, la douce. Bon, quand tu le lis, ça, bon, je suis sûr que ça doit arriver au moins sur un où tu te dis, j'ai de la marge quand même. Non ? Mais voici, rassure-toi. Même si tu n'es pas assez patient, l'alliance de Dieu tient parce qu'elle ne repose pas sur ta patience, elle repose sur sa patience. Même quand tu es infidèle, l'alliance n'est pas en danger parce que la Bible dit que quand tu es infidèle, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Et ça, je ne peux pas le comprendre. Parce que les êtres humains sont méritoires. Les êtres humains, c'est donnant, donnant. Mais Dieu, lui, il donne. Et ça change tout. Quand je suis dans l'alliance, je suis sécurisé. Ma vie est sainte. Ça va bien. Je peux te dire qu'un croyant qui vit dans l'alliance, tu le vois. Même il peut passer pour un insouciant parfois. Même en vérité, il va passer souvent pour un fou. Mais lui, il est fou. Il coule et il est content. Alors, on fait une petite parenthèse. Si tu as choisi de te faire couler, c'est une chose. Sois inquiet. Mais si tu marches avec Dieu et qu'à des moments donnés, tu passes par des moments difficiles, il y a des montagnes infranchissables, des choses que tu comprends pas, des circonstances extérieures, quand tu es dans l'Alliance, ça va. Dieu est là, je marche avec Dieu, je suis dans son alliance, je suis dans la réalisation de la grâce permanente et je suis dans son alliance. Mais quand je crois que l'alliance dépend de moi, je me mets à être anxieux et je bâtis ce que j'appelle moi une vie chrétienne d'anxiété. C'est quoi une vie chrétienne d'anxiété ? C'est que pour combler mon anxiété, pour que je puisse avoir cette certitude que je suis toujours dans l'alliance, je fais des actes de piété. Alors, nous, les évangéliques, on est forts parce que on crible les catholiques, hein, on les crible. Ils allument un cierge, ouais, ça, bagda, mais je vais te dire une chose. Toi, des fois, tu allumes des cierges aussi. Des fois, tu pries juste pour par anxiété. Tu pries pour te sentir aimé. Tu pries parce que sinon, l'alliance est en danger. En fait, ta piété, c'est la manifestation de l'anxiété. Je jeûne. Ah, mais cette année, j'ai pas jeûné, faut que je jeûne quand même. Vous avez remarqué qu'on n'a pas fait de jeûne en septembre. D'habitude, on fait le jeûne de septembre quand même. Ah, ben tiens, on n'a pas jeûné en septembre. Est-ce que Dieu nous aime encore? Même toi, tu es parti en vacances dans le temps de jeûne? Mais c'est grave. C'est quoi cette église? Mais on va jeûner. Mais on va pas jeûner pour être aimé. On va pas jeûner pour se dire, ou on reste dans l'alliance, sinon c'est grave danger. Donc, quand j'oublie que je suis dans l'alliance, eh bien ma vie spirituelle, ma piété est le fruit de mon anxiété. Je lis le dernier verset du matin avec vous. On va lire ensemble dans Lamentation 3, 22, 23, un verset qu'on connaît tous. Il est affiché sur tous les frigos, il est même mis dans les toilettes, comme ça tu le vois tout le temps. Mais on ne le comprend pas, ce verset. Parce que si on le comprenait, notre qualité de vie ne serait pas du tout la même. Nos prières ne seraient pas du tout les mêmes. Notre niveau de joie ne serait pas du tout le même. Vous connaissez ce texte qui est issu d'un livre qui s'appelle Lamentation. Déjà, quand tu vas pas bien et que tu arrives à un bouquin qui s'appelle Lamentation, t'es pas sûr, hein, de ce qui va se passer. Lamentation, chapitre 3, verset 22. C'est le prophète Jérémie qui parle. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. En fait, quand tu lis ce texte-là, juste avant, il parle de choses hallucinantes. Il dit, là, l'absinthe, quand je pense à l'absinthe, au poison. Bon, c'est sûr que quand tu penses qu'à ça, c'est pas la grande paix en toi. Mais j'aime le prophète Jérémie qui vit un temps très difficile. Quand tu regardes sa vie, à ce moment-là, c'est une vie de galère. En général, on peut prendre certaines de nos épreuves les plus dures. Je crois que des fois, elles sont rien à côté de ce que lui vit à ce moment-là. Mais lui, il est là, il est un prophète. Il a une discussion avec Dieu. Il pense à sa misère, il pense à ce qu'il vit. Et parce qu'il pense à ce qu'il vit, il oublie ce que Dieu a fait. Quand tu es focalisé sur toi, tu oublies ce que Dieu a fait. Quand tu es focalisé sur ce que toi tu fais, tu oublies que l'alliance, c'est lui qui l'a faite. Et Jérémie est là, et dans un moment de sa vie compliqué. Fabien, si tu peux venir avec l'équipe, on va avoir un temps de prière ensemble. Mais dans un temps compliqué, et il pense à des choses qui l'accablent, et sa vie est dure. Et puis d'un coup, il est dit ceci. Et là, c'est Dieu qui commence à l'éclairer, qui commence à lui parler, qui commence à lui montrer. Il va se rappeler d'une chose, il va dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Il se met à penser une chose de dingue, c'est que Dieu a fait alliance avec lui. Il se dit, mais en fait, les bontés de Dieu, tous les matins, elles sont disponibles. La miséricorde de Dieu, tous les jours, elle est disponible. En fait, quand tu lis ce texte-là, littéralement, ce que Jérémie dit dans ce texte-là, c'est que quand il dit « les bontés se renouvellent chaque matin », en fait, c'est comme si le prophète disait que il a la possibilité de découvrir la bonté de Dieu chaque jour comme au premier jour. Il a la possibilité de découvrir l'amour de Dieu chaque jour comme au premier jour. En fait, c'est comme si Dieu... Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si Dieu vivait chaque jour de sa vie, de Dieu, comme si c'était le premier. Il n'est pas épuisé dans sa capacité à aimer. Toi, tu peux être éprouvé dans ta capacité à être patient, par exemple. Tu as une journée de travail difficile, tu rentres à la maison. Moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. J'ai une journée qui n'était pas simple, j'arrive à la maison. Des fois, surtout quand les enfants étaient plus petits, vous les conjoues, j'avais moins de patience. Enfin bon, priez pour moi, que Dieu m'aide. Mais j'avais moins de patience. Des fois, ma femme, elle me disait, oh, t'écoutes les gens toute la journée, tu m'écoutes pas à moi. Et en fait, je me rendais compte, mon capital patience, tous les jours, il s'épuise. J'ai besoin de temps de break pour être renouvelé. Mais Dieu, lui, est pas comme ça. Dieu est pas comme ça. Son alliance garantit le fait qu'il est renouvelé chaque jour. Donc en fait, il nous aime chaque jour comme au premier jour. Il nous rencontre chaque jour comme si c'était le premier. Dieu te découvre tous les jours en fait. Dieu t'aime tous les jours. Dieu est plein de bonté pour toi tous les jours comme si c'était le premier jour. Il n'est pas affecté dans sa capacité à aimer. Et j'aime le prophète Jérémie. Parce que si Jérémie dit à la fin de son passage « Oh que ta fidélité est grande », c'est parce qu'il réalise ça. Il se dit, mais en fait, Dieu m'aime chaque jour comme si c'était le premier jour. Dieu fait alliance avec moi chaque jour comme le premier jour. Dieu est favorable envers moi chaque jour comme au premier jour. Et là, il ne peut pas faire autre chose. Il se dit, mais que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. La fidélité, c'est l'élément le plus important dans une alliance. Si tu introduis de l'infidélité dans une alliance, l'alliance est en grave danger. Eh bien, Dieu, lui, dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de faire, nous dit, je n'introduirai jamais d'infidélité dans mon alliance. Je serai fidèle, c'est mon alliance, je la garantis, je la porte avec toi. Et je termine par ça, et on va prier ensemble pour que Dieu nous aide à être dépoussiérés de tout ce qui nous entrave dans cette marche avec lui, dans toute cette vie qui doit être simple et qui doit être pleine de mouvement. C'est que tu dois te rappeler que c'est lui qui l'a fait, c'est pas toi. Il y a même un passage, je crois que c'est dans les Thessaloniciens, ça doit être 1 Thessaloniciens 5, il est dit ceci, « Sanctifiez-vous !» Sanctifiez-vous. Soyez saints comme il est saint. Soyez saints comme il est saint, sanctifiez-vous. Et après, l'apôtre Paul dit, c'est lui qui le fera. Même la sainteté dans ta vie, ne crois pas que c'est toi qui l'a produit. Toi, tu peux produire des actes, mais les actes ne changent pas le cœur. Par contre, Dieu, lui, peut transformer ton cœur et ça va produire des actes. Et ça n'a rien à voir. Extérieurement, tu peux prendre un homme très religieux et tu mets un homme à côté qui vit dans la grâce et dans l'alliance. Les deux peuvent faire les mêmes choses. Peut-être même que celui qui a de la religiosité en fait plus que l'autre. Mais par contre, la joie, le mouvement, le plaisir de marcher avec Dieu, la compréhension de la paternité de Dieu, la compréhension de la fidélité de Dieu, celui qui vit dans la religiosité ne peut pas l'avoir. Sa vie n'est qu'effort et effort et effort. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Depuis quand tu n'as plus retrouvé ce Jésus doux et humble de cœur? Je vais vous donner du repos pour vos âmes. Être chrétien, c'est cool. Dis à la personne à côté de toi, finalement, être chrétien, c'est cool. Remarque, c'est cool. Oui, des fois, il y a des défis. Les amis, des fois, il y a des vrais défis. Mais ce n'est pas moi qui franchis la montagne. C'est le mouvement qui me soutient, qui me la fait passer. Oui, des fois, je marche sur des eaux qui sont très instables. Et j'ai l'impression que je prends l'eau de tous côtés. Mais Dieu garantit son alliance envers moi quand même. Dans les bons, dans les mauvais jours, dans les jours où tu as été un champion de Dieu, dans les jours où tu as été loin de Dieu, Dieu t'a aimé de la même manière. Dieu n'a jamais changé dans sa manière de te voir. La fidélité de Dieu est incompréhensible. Elle est divine. J'aimerais qu'on puisse se lever, s'il vous plaît, ce matin. On termine par ça. Parce que J'ai dit beaucoup de choses ce matin extrêmement simples, en fait. Je crois que j'ai dit que des choses qui sont simples. Mais je me dis que parfois, nos vies manquent un peu de légèreté, un peu de mouvement, un peu de joie, un peu de bonté. Que des fois, il y a des fardeaux, il y a trop de fardeaux. C'est pas possible. Ce n'est pas une vie de fardeaux. Ce n'est pas une accumulation de fardeaux. C'est une accumulation de la bonté de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. C'est une accumulation de la révélation de son alliance. C'est une bonne nouvelle. Amen. Dis à la personne à côté de toi, sois joyeux. Tu es dans l'alliance. Tu es dans la grâce. La grâce est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Peut-être ta semaine a été terrible. Mais la grâce de Dieu, boum, est capable de te renouveler. Peut-être tu as eu une semaine de champion de l'Éternel. Eh bien, tu n'es pas plus aimé. Dieu t'aime pareil, que la grâce puisse nous envahir au point où elle crée du mouvement dans nos vies. Et là, on se met à faire des choses parce qu'on sait que Dieu est là, il nous aime, parce qu'il nous aime. Mais des fois, je rends témoignage, pas parce que je dois. Vous avez remarqué, petite parenthèse d'une seconde, vous avez remarqué que le mot évangélisation n'est pas dans vos Bibles? Parce que l'évangélisation, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas un mot dans la Bible. Il n'y a aucun endroit où il est dit « allez faire de l'évangélisation ». Par contre, il y a des gens qui comprennent la grâce, qui sont amoureux de Dieu et qui parlent de ça aux autres. Donc, quand tu es en mouvement par la grâce, tu parles de cette grâce aux autres. Mais quand tu es en mouvement par la religiosité, tu crées l'évangélisation. Comme ça, tu fais ta BA, tu te sens bien, personne n'est sauvé, mais toi, tu es content. Je provoque un peu quand même, hein ? C'est mon rôle. Que Dieu nous aide à retrouver la joie du salut. Une église est un lieu qui doit être saturé de joie. Tu peux être extrêmement triste, tu peux pleurer même, parce que c'est difficile, mais tu es saturé de joie. Les chrétiens, on peut vivre des trucs de fou, hein, parce que Paul dit, soyez constamment joyeux, et il dit, je pleure tout le temps. Voilà. Je suis constamment dans la tristesse à cause de mes frères et après aux Thessaloniciens, il leur dit « Soyez toujours joyeux ». Mais oui, mais c'est ça. Donc je prie pour nous, Seigneur, ce matin.